Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Oui, c'est un privilège aujourd'hui que Dieu nous accorde de partager sa parole pour clôturer cette semaine qui a été dédiée à la diaconie. Ceux qui ont eu l'opportunité d'être avec nous, je vais commencer à demander, qui ont eu le privilège d'être là au courant de la semaine, au moins une fois. Ah, gloire au Seigneur. Je m'appelle Joël Tembo, vous verrez, je suis de la CBK Gomaville, je suis actif au service anglophone, mais j'interviens aussi occasionnellement dans les services francophones. Alors, nous avons passé toute la semaine en train de développer le thème qui nous a été préparé pour cette semaine de la diaconie, intitulé « La vie d'un disciple et l'autonomie financière ». Et nous allons commencer par faire un résumé de ce que Dieu nous a communiqué au courant de la semaine. Nous étions ici le mardi à 6h30 avec le maman, mais il y avait aussi d'autres personnes. Nous étions ici le mercredi avec toute la congrégation, le jeudi, et ensuite le samedi, nous avions fait la synthèse avec les jeunes, disons le vendredi soir avec les jeunes. Alors, le premier jour, nous avions vu que à travers Genèse, qui nous parle de l'œuvre de la création, nous avons réalisé que Dieu, à chaque étape de la création, il disait que tout est comment? Tout est bon. Et lorsque Dieu était à la fin de l'œuvre de la création, nous voyons cela dans Genèse 1, 31, selon différentes versions. Nous allons voir que Dieu dit que tout est comment? Très bon. Tout est très bon. Donc Dieu, à la fin de l'œuvre de création, il dit que tout est très bon. Et lorsque Dieu dit que c'est très bon, sachez que c'est très bon. Dieu, c'est l'excellent évaluateur. Vous savez que ceux qui ont fait les PhD, ceux qui sont devenus professeurs ordinaires, parce que nous en avons ici, ils sont passés par différentes évaluations. Et chaque fois que l'évaluation est à un niveau supérieur, il y a des évaluateurs plus expérimentés, des professeurs émérites qui vont évaluer des professeurs ordinaires qui vont évaluer ceux qui vont devenir professeurs, ainsi de suite. Mais ici, nous sommes devant Dieu qui dit, voilà, tout était comment? Très bon. Et lorsque Dieu dit que c'est très bon, c'est vraiment très bon. Et j'essaie un peu de m'imaginer quel est l'endroit où c'est très bon. Dieu m'a fait grâce d'un peu voyager. J'ai vu l'île Maurice, une des destinations les plus vantées. J'ai été aussi aux Caraïbes, au Jamaïque. Et vous voyez, ce sont des endroits où on essaie de maintenir l'environnement dans cet état très bon. Et effectivement, quand vous y êtes, vous trouvez que c'est très bon. Mais quand Dieu avait créé, c'était encore très bon que ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, Dieu a fait tout ça, pourquoi? Parce qu'il voulait nous préparer des conditions pour bien vivre. Donc, Dieu a préparé des meilleures conditions pour que les êtres humains puissent bien vivre. Et Dieu, parmi tous les animaux qu'il a créés, il a créé des animaux géants comme l'éléphant, des animaux terrifiants comme les lions. Mais parmi tous ces animaux-là, Dieu n'a pas trouvé un responsable pour gérer ce qu'il a créé. Et nous voyons dans Genèse 2, 15 que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu, parmi toutes ces créatures, il a fait confiance à l'homme parce que c'est à l'homme qu'il a donné le cadre. Surtout que nous avons été créés à son image. Donc Dieu nous a doté des capacités exceptionnelles pour que nous soyons en mesure de maintenir ce qu'il a créé dans l'état parfait et pour que nous puissions en réjouir. Donc toutes ces conditions-là que Dieu a prévues pour nous, nous devons assumer nos responsabilités pour les maintenir dans un état de façon à ce que ça nous fournisse le bien-être. Lorsque nous parlons aujourd'hui de l'agriculture par exemple, dans la Bible, nous apprenons qu'il y avait ce qu'on appelle période de jachère. Donc, on devrait cultiver pendant 7 années et puis laisser la terre à repos pour que la terre soit encore à mesure de se régénérer et être fertile. Aujourd'hui, nous avons un défi d'utilisation des engrais et ça nous tue. Il y a même des maladies qu'on ne connaissait pas avant qu'on connaît aujourd'hui. Alors, mais Dieu veut nous rappeler aujourd'hui que nous sommes responsables et cette responsabilité, nous devons bien l'assumer. Alors, maintenant, dans le contexte actuel d'aujourd'hui, où nous sommes à la recherche du bien-être, nous savons bien que tout tourne autour des finances. Parce que même aujourd'hui, quand on va doter, on dit qu'il n'y a pas de, ferme. Les chèvres sont converties en dollars. Les vaches sont converties en dollars. Parce que tout est autour de l'unité monétaire. Et quand on parle de crise économique, tout est autour de l'argent. Alors, aujourd'hui, pour que nous puissions nous rapprocher de ça et assumer nos responsabilités, nous devons savoir bien épargner et investir sagement. Nous allons voir ça dans la suite. Nous devons être des agents de la multiplication. Nous devons être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent et pour l'œuvre de Dieu. Nous allons développer cela dans la suite. Le deuxième jour, nous avons vu à travers Matthieu 6, 33, que dans la quête du bien-être, nous devons user des sagesses en recherchant l'argent, en faisant des choix qui préservent notre connexion à Dieu. Parce que nous avons vu aussi que dans le monde d'aujourd'hui, dans la vie professionnelle active, nous sommes dans la course pour chercher le bien-être. Et vous savez, le bien-être, c'est un état où vous êtes satisfait de votre vie. Donc, vous avez ce qu'il faut pour bien vivre. Et lorsque nous parlons des pays sous-développés, des pays en développement, ce sont des conditions dans lesquelles les êtres humains se sont éloignés de ce bien-être-là. Et dans la quête de ce bien-être, il y a même ceux qui ont dit que tout chemin mène à Rome, que tous les coups sont permis. Mais ici, Dieu veut nous rappeler que nous sommes ses enfants, que tout en recherchant le bien-être, nous devons préserver notre connexion avec lui et mettre avant tout la recherche de sa sagesse et le reste de toutes ces choses-là nous seront données. Bien sûr, pas comme une baguette magique, mais nous devons travailler durement. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de nos bien-aimés qui ont quitté la voie de la foi en cherchant ce bien-être. Vous connaissez toutes ces sectes qui ont amené nos frères et sœurs dans la perdition. Vous connaissez combien de foyers sont brisés aujourd'hui parce qu'un des membres du foyer a décidé d'aller chercher ce bien-être par baguette magique, ce qui n'est pas malheureusement, ce qui ne sera jamais le cas. Et notre pays reste aussi sous-développé parce que dans plusieurs coins de ce pays, vous trouvez les gens sont passifs. Les gens pensent qu'il y aura un miracle et par baguette magique, les choses vont changer, ce qui ne sera jamais le cas. Alors, le troisième jour, nous avons vu à travers Matthieu 25, ça nous parle des talents, le maître qui est parti, qui a confié à ses serviteurs des talents. Et nous allons réaliser que nous avons tous reçu, chacun individuellement, un talent à fructifier. Et ici, nous voulons parler du talent dans un contexte professionnel, parce que nous parlons souvent du talent dans un contexte d'engagement des disciples là. Nous avons ceux qui ont les talents de chanter, de faire la guitare, de taper le drum, jouer à la guitare, le piano, les talents de la diaconie, les talents d'évangéliser. Nous, tout en considérant ces talents-là, et je sais que nous avons fourni des efforts pour identifier nos talents parce que nous avons été beaucoup préparés par rapport aux disciples-là. Mais ici, Dieu veut nous parler aussi des talents qui peuvent nous aider à travailler sur notre bien-être. Et ces talents sont souvent manuels, donc notre habileté manuelle. Et Dieu nous invite à faire un effort de lire les talents qu'il nous a confiés. Là, nous faisons allusion aux talents relatifs à la vie professionnelle. Et ça peut être les talents de faire l'agriculture, les talents de faire la maçonnerie, de faire la pisciculture, de faire la couture, de faire la plomberie, de faire la pâtisserie, de faire le service comme la logistique, de faire la conduite automobile, de faire les taxis, ainsi de suite. Alors nous devons travailler durement pour fructifier ces talents identifiés. Nous sommes appelés à initier des activités génératrices de revenus qui apportent solution aux problèmes de notre communauté. Nous avons vu que nous avons tous, chacun, quelque chose qu'il peut faire. Nous allons voir ça dans la suite. Enfin, nous sommes invités à faire une bonne gestion des ressources que Dieu a mis en notre possession. Et la première ressource que vous avez, c'est le temps. Nous allons beaucoup en parler. Les ressources financières. Tout le monde peut épargner, même si vous gagnez 10 dollars le mois. Et les ressources matérielles que Dieu a mis en notre possession. Alors, dans les minutes qui restent, nous avons 40 minutes, maintenant de consommer 10, il reste 30 et nous allons bien gérer cela. J'espère que nous sommes dans les temps. Alors, nous allons développer le sujet qui est intitulé « Un disciple qui plaît à Dieu et aux hommes se suffit lui-même ». Alors, il y a plusieurs passages bibliques qui vont nous guider. Alors, revenons sur les passages que nous avons lus au début de Genèse 2:15. Nous avons vu que Dieu nous a confié une responsabilité pour maintenir les conditions afin de vivre le bien-être. En fait, qu'est-ce qui est prévu ici? Dieu a créé la nature. Et vous savez, tout vient de la nature. Et aujourd'hui, les grands défis que nous avons, c'est que nous manquons de l'essentiel pour bien vivre et nous abusons de la façon dont nous gérons notre nature. Regardez, c'est une illustration simple. Regardez tout ce qui est dans cette salle. Vous imaginez un élément ici dans ce temple qui ne soit pas venu de la nature, qui a été fabriqué de la planète, notre planète que la Terre. Nos habits sont venus de quoi? Nos habits sont venus de quoi? C'est du coton, ou on parle des tissus en soie. Les soies viennent de quoi? Des animaux. Le plastique, ça vient de quoi? C'est du pétrole. À part ça, il y a du bois, le métaux qui vient des sous-sols. Donc vous allez voir que tout ce que nous voyons ici, tout ce qui est sur nous, que ce soit les téléphones, les sacs à main, les chaussures qui viennent de la peau, et la peau qui vient des animaux, même les lunettes que vous portez, c'est le plastique qui vient du sous-sol. Donc tout ce que nous utilisons, tout ce que nous manipulons, ça vient de la nature. Et donc Dieu nous a tout donné. Mais il veut nous rappeler ce matin que nous avons la responsabilité de bien gérer. Et nous allons voir par la suite comment chacun de nous peut assumer sa responsabilité dans les coins où Dieu l'a placé. Maintenant, au deuxième point, nous voyons que Dieu nous trouve que nous nous sommes éloignés de la responsabilité. Et là, c'est bien avant parce que c'est Proverbe qui a été écrit par Salomon. Là, nous sommes dans Proverbe 6. Proverbe 6, nous avons beaucoup de passages de référence, mais nous n'allons pas tout lire pour gérer notre temps. Dans Proverbe 6, à partir du 6e verset, on nous parle d'apprendre la sagesse de quoi? De la fourmi. En fait, la fourmi, vous voyez la photo, je vais montrer la photo technique. La fourmi, ce n'est même pas un animal. C'est, on appelle quoi? Insectes. Donc c'est parmi les êtres les plus minuscules que Dieu a créés et Dieu nous dit à travers ce livre des Proverbes, va vers la fourmi. Ça c'est Proverbe 6, à partir du verset. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Mais la question a été posée pendant la semaine, même ce matin au service anglophone. Ceux qui ont fait la zoologie, d'ailleurs, tout le monde qui a fait l'école secondaire a un cours de zoologie. Je crois que c'est en deuxième CO, si je ne me trompe pas. Deuxième CO ou premier CO? Deuxième CO, voilà. Nous avons un cours de zoologie. Mais déjà aujourd'hui, ceux qui font de bonnes écoles, à l'école primaire, déjà on apprend la zoologie. Mais regardez dans la zoologie, la taille de la fourmi, c'est là. C'est 2 mm à 3 cm. Mais le cerveau de la fourmi a quelle taille? Moins que la taille de la pointe d'une aiguille. Mais regardez la taille de notre cerveau. Essayez un peu de comparer, on serait à quelle proportion? 1 sur 1000? Peut-être 1 sur 10 000, 1 sur 100 000 ou 1 sur 1 million. Peut-être même 1 sur 100 millions. La proportion entre la petitesse et la taille du cerveau de la fourmi par rapport à la taille de nous, les êtres humains. Alors, pourquoi nous sommes défiés? C'est parce que nous nous sommes éloignés de cette responsabilité que Dieu nous a confiée dans Genèse 2:15. Donc nous assumons mal nos responsabilités. Et quand vous voyez les animaux, là je parle encore des insectes comme les abeilles, qui peuvent toujours s'organiser jusqu'à aujourd'hui et nous produire du miel. Mais tout ce que Dieu a créé comme espèce animale, ça fournit un effort pour assumer ses responsabilités. Donc c'est nous les humains qui nous sommes éloignés. Mais Dieu veut nous rappeler aujourd'hui que nous devons encore nous rapprocher de cette responsabilité. Et vous savez, au courant de la semaine, nous avons vu que le Congo, c'est nous qui sommes au Congo, particulièrement nous qui sommes à Goma, nous sommes parmi les coins du monde les mieux gâtés. Et aujourd'hui, tout le monde veut venir au Congo. Aujourd'hui, la prière de l'Indien, du Libanais, du Pakistanais, de l'Indonésien, c'est de venir s'installer au Congo et commencer un business. Parce que c'est un pays où tout ce qu'on commence, tout ce qu'on entreprend, ça réussit. Sauf que ces citoyens n'y croient pas. Alors, le défi, c'est quoi? C'est que Dieu nous a doté des meilleures conditions pour atteindre le bien-être. Mais maintenant, nous nous sommes éloignés. Et Dieu veut nous rappeler à travers cet enseignement que chacun de nous doit faire une introspection sur comment je suis en train de gérer tout ce que Dieu a mis à ma possession. Alors, dans le troisième point, nous allons voir que Dieu nous invite à être des agents de la multiplication avec lui en développant une activité génératrice de revenus. Vous allez dire, ok, moi je suis en ville, je ne suis pas même en contact avec la nature, surtout à Goma où nous faisons le morcellement des parcelles, ce qui est aussi un comportement un peu anormal. Aujourd'hui, je suis en train de suivre ceux qui vendent les parcelles, les commissionnaires. On vous fait même des offres de parcelles de 10 sur 8. Je me dis, la maison sera de quelle taille? Maintenant, on construit la fosse septique en dessous du salon. Ce qui est anormal. C'est une façon... Nous gérons mal. Je me dis, pourquoi acheter une petite parcelle en ville au lieu d'en acheter une grande à lac vert? Et si nous y sommes une masse, nous allons y créer la sécurité. Donc mon peuple périt par manque de connaissances. Et aujourd'hui, les gens se coincent, vous vous coincez dans un petit espace et nous, notre vie est très courte. Vous en jurez quand? Vous en jurez quand? Et Dieu veut nous rappeler de tout ça. Parce que aujourd'hui, la première illustration, c'est l'élevage des poules. Nous échouons d'élever parce que nous vivons dans un espace exigu. Donc la plupart d'entre nous se confinent, se coincent dans un espace où on ne peut même pas avoir une poule. Mais si vous êtes dans le cas, vendez, achetez dans la périphérie quelque chose de plus grand. Et vous allez pratiquer quoi? L'élevage, parce qu'aujourd'hui, nous sommes ridicules d'importer même les œufs traditionnels du Rwanda. Un petit pays point comme ça sur la carte, qui doit nourrir un géant comme le Congo. Mais c'est nous qui faisons que le Congo ne soit pas un géant. C'est vous et moi, parce que si chaque famille de Goma a une poule, est-ce qu'on va importer les œufs? C'est nous qui devions avoir un excédent et exporter chez eux. Parce que quand on voit la densité à terme de personnes par nombre d'habitants par kilomètre carré, nous avons une très faible densité. Mais nous sommes nourris par des pays qui ont des densités très... C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que non, on nous a mis dans une mauvaise culture où tout le monde veut se coincer. Et maintenant, quand vous êtes en ville, ça fait chaud. Vous savez ça? Ça fait chaud. La journée en ville, ça fait chaud la nuit. Quand vous êtes de cette partie ici, ça fait comment? Ça fait frais. Pourquoi? Parce que là, on a mal géré. Et les gens continuent à couper, et se coincer. Mais Dieu veut nous rappeler que ça nous rend irresponsables. Parce que vous ne savez pas faire l'élevage. Vous vivez sans potager. On a fait une illustration que, juste en faisant un potager qui vous donne des légumes, j'ai fait dans un séminaire des pasteurs de Kipago, qu'un ménage pouvait épargner 1 000 francs par jour, n'est-ce pas? Les légumes nous coûtent combien par jour? Là, je parle des légumes seulement. Donc, si chaque ménage a un potager, si vous avez un potager, et d'ailleurs, quand vous avez un potager, vous avez l'avantage d'avoir des légumes bio, qui n'ont pas eu de pesticides. Et vous allez jouer sur votre longévité. Épargner 1000 francs par jour fois 365, c'est combien? 365 000 francs d'épargne suite à l'économie de l'argent dédié au potager. Regardez ce que nous dépensons maintenant pour les fruits. Un ménage qui veut prendre des fruits à Goma dépense combien par jour? C'est dans les 2000 francs et plus, multiplié aussi fois 365 jours. Les œufs que nous achetons maintenant, nous achetons les œufs. Aujourd'hui, avant, quand on avait un visiteur, on disait Mwende mwangaye kuku mwa kule mwina se mouchinje mwken. C'est ce que nous, quand on a grandi, c'était ça. Mais aujourd'hui, il faut aller où? Au marché, acheter une poule qui a mangé, qui a été nourrie par des médicaments, on a pompé des produits toxiques. C'est comme ça aujourd'hui on parle beaucoup des cancers. C'était une maladie qu'on disait la maladie des Occidentaux. Mais nous avons importé ça parce que nous voulons imiter par manque de connaissances. Alors là nous voyons que, on peut montrer les images, je vais essayer un peu de passer tout à revue. Donc là c'est la poule. Pourquoi? Parce que la poule traditionnelle, ce n'est pas un investissement important. Nous avons fait une simulation que si chacun ici prend 10 dollars, achète des petites poules et fait l'élevage chez lui, et nous faisons une coopérative, nous commençons à amener des œufs ici, nous pouvons faire de l'argent qui va financer le carrelage de cet angle au bout d'une année. Si chacun achète une poule, deux poules, et il commence à amener des œufs chaque semaine ici, et on fait une coopérative, on vend, ça peut financer une bonne partie des travaux de la construction. Ça peut aussi créer une activité, une coopérative qui va commencer à employer les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, sur les personnes qui sont formées, c'est tous ceux qui sont à l'université, les statistiques nous donnent moins de 10% des taux d'accès à l'emploi. Donc tous ces gens qui sont en train d'être formés dans les universités sont des candidats au chômage. Alors que Dieu nous a donné des opportunités, comment nous pouvons travailler? Alors là, vous voyez les maïs. Avec les maïs, nous avons fait une estimation que sur une gousse, il y a plus de 400 graines. Et Dieu nous invite à être des agents de la multiplication avec lui. Plantez les maïs, après une saison, vous allez récolter combien? Fois 400. C'est ça, si chaque maïs pousse et que ça produit, c'est ça le taux de multiplication pour les maïs. Vous voyez la pomme de terre, comment ça se multiplie. Mais vous allez dire, moi, je n'ai pas là où je peux cultiver. Mais à Goma, il y a là où on peut planter les amarantes et à 3 semaines, vous récoltez. Et nous avons des espaces vides que vous pouvez cultiver, mettre les amarantes. Nous avons fait une simulation pendant la semaine qu'avec un investissement de 5 000 francs ou de 10 000 francs avec une boîte de semences d'amarantes, après 3 semaines, vous pouvez récolter plus de 100 000 francs. Donc, multiplication par 10. Alors là, si vous ne savez pas, vous pouvez faire la restauration. Vous achetez, vous faites la préparation et vous faites aussi la multiplication parce que vous allez faire ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Nous voyons la couture, les transports. Là, je vois un taxi. Maintenant, nous avons la couture des taxis à Goma. Nous avons vu avec les jeunes que si 50 jeunes se décident de vendre leur smartphone, ils peuvent créer une société avec 2 petites voitures. Mais pourquoi nous avons nos téléphones? Nous en faisons quoi? Et vous êtes là pour déranger les parents. Je n'ai pas les mégas, je n'ai pas les unités. Le téléphone a été conçu comme un outil de production. Mais dans les pays du tiers-monde, le téléphone est devenu un outil d'appauvrissement. Et vous avez l'argent pour les paris foot. Qui a déjà fait les paris foot? Soyez sincères, les jeunes. Si vous leur avez dit qu'il n'y a pas beaucoup, ne les faites plus. Parce que ce sont des algorithmes qui sont déjà paramétrés pour vous prendre de l'argent. Ceux qui font les paris foot, ils ont fait les mathématiques, ils ont programmé les machines, il y a match Real et Barça, ils ont déjà fait les statistiques, ils anticipent déjà de prendre votre argent. Donc dans un pays sous-développé, on ne devait pas avoir les paris foot. Et malheureusement, c'est de l'argent qui quitte le tiers-monde pour aller où? En Occident. Ce qui est anormal. Donc les jeunes, vous dites, vous vous plaignez, vous n'avez pas d'emploi, vous êtes 50, vendez vos smartphones, mettez dans une caisse, commandez, il y a quelqu'un ici qui vend les voitures, je pense, il ne va pas manquer. Commandez des petites voitures, décorez-les, deux d'entre vous vont être chauffeurs, un va être gérant, et la société va se développer. Et après une année, chacun va acheter un autre téléphone. Et vous allez créer un emploi qui va durer longtemps. Alors nous avons des défis dans la construction, on a besoin de bons maçons, de bons techniciens dans l'énergie solaire, la transformation de la tomate par exemple, parce que nous avons nos producteurs agricoles qui ont le défi de transformer ce qu'ils produisent. Et aujourd'hui, vous pouvez faire une entreprise qui produit. Je vois la tomate là qui vient du Rwanda. C'est très simple. Mais pourquoi il n'y a pas un Congolais qui fait ça? Vous connaissez la tomate là qui vient du Rwanda, non? Avant, il y avait la salsa, maintenant les Rwandais nous ont défiés. Comment les Rwandais peuvent nous nourrir à tomates? Considérant l'air dans ce rapport à la nôtre. Vous pouvez faire un service de nettoyage. J'ai fait ça, j'ai fait les déchets. Après mes études universitaires, mon premier métier, c'était de ramasser la poubelle. Et la parcelle où j'ai vu aujourd'hui, je l'ai achetée par les épargnes que j'ai fait grâce au service de quoi? Ramasser la poubelle. Donc même dans les déchets, on peut faire de l'argent. Vider les toilettes. Vous savez, celui qui vide la toilette, on lui paye combien? Quand on vide une toilette, vous avez déjà fait vider une toilette. C'est beaucoup d'argent. Et si vous ne voulez pas manipuler tout ça, vous voulez être digital, nous avons aussi l'opportunité d'investir dans le digital. Et aujourd'hui, les grandes entreprises sont celles qui sont dans le digital. Et sachez utiliser votre smartphone pour faire de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des influenceurs qui peuvent faire de l'argent à travers le digital. Vous avez un compte Facebook, vous l'avez boosté, vous avez 100 000 likes, ça devient un canal de publicité où les gens vous payent de l'argent. Je connais des gens qui ne font rien, qui ont des comptes Facebook, qui ont beaucoup de likes, 1 million de likes, qui font que de l'argent par ça. Et ils peuvent arriver à générer des milliers de dollars par mois avec les revenus des publicités. Alors, nous sommes souvent au courant de toutes ces choses que je viens de vous dire. Mais ce qui nous empêche, c'est quoi, de commencer? C'est la honte. Et Dieu nous invite à faire quoi? À briser la honte pour démarrer une activité gentille de revenus. Nous avons vu pendant la semaine qu'à Goma, on est tellement gâté que quand vous n'avez pas de capital, vous pouvez aller dans une zone où il y a beaucoup de pierres, ramasser les graviers. Et nous avons vu que si vous ramassez les graviers du matin au soir, vous pouvez faire 10 petits sacs. Et les ingénieurs nous ont dit que 10 petits sacs de gravier coûtent combien? 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 50 000 francs. Mais c'est la honte. Mais combien de jeunes sont ici? Ils viennent même sans offrande les dimanches. Et vous êtes là lundi au dimanche, vous ne faites rien. Allez ramasser les graviers. Cherchez des sacs vides de ciment là où on a coulé la dalle. C'est gratuit. Vrai ou faux? Oui, c'est gratuit. Allez ramasser les graviers. La chorale, allez ramasser les graviers. Et combien de fois on achète du gravier ici à l'église? Mais c'est la honte qui nous empêche. Moi, je connais des gens qui ont fait de l'argent en ramassant les graviers. Et il n'y a aucune taxe au niveau des mines. Là, l'ANR s'en fout de ce que vous faites parce que c'est négligé. Aucun service étatique ne viendra vous déranger, mais vous ferez vos 50 000 cas calmement. Mais jeune, vous avez fait combien pendant la semaine? Du lundi au samedi, vous avez gagné combien? Alors, c'est souvent là, dans les domaines de recyclage des déchets. Vous voyez maintenant les femmes rwandaises qui viennent ramasser les bouteilles, qui passent dans les hôtels. Ça génère beaucoup d'argent. Je l'ai fait. J'ai commencé un business de ramasser les papiers dans les écoles. On avait un projet de faire une usine de papier hygiénique, mais le Covid est venu, mais on va reprendre encore. Et j'avais déjà répertorié plus de 500 écoles à Goma, où on laissait des sacs dans chaque école, et chaque semaine, on pouvait faire 10 tonnes de papier recyclé. Mais vous savez, 10 tonnes de papier hygiénique, ça coûte combien? C'est des milliers de dollars. Mais c'est dans les activités négligées où il y a beaucoup d'argent. Mais nous sommes négligents. Faire les potagers pour beaucoup de licenciés, c'est ridicule. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai produit du lundi au samedi? À principe, de tous ces exemples que je suis en train de vous donner, personne n'a droit à l'excuse. Nous sommes tous invités à produire quelque chose pour nous rapprocher de notre bien-être. Alors nous allons voir quelques étapes à suivre pour créer une nouvelle activité génératrice de revenus. Là, nous allons un peu dans la pratique. Alors, première chose, il faut lire un besoin dans votre milieu. Par exemple, la faible production des œufs naturels. Ça, c'est un besoin que nous avons, que vous connaissez, parce que nous les importons. Et un œuf coûte combien? 500 francs. C'est beaucoup d'argent. Un œuf coûte combien? Combien? 500 francs. Donc, si vous avez 10 poules, chaque poule pond un œuf, vous avez combien? 5000 francs. Et ces poules se baladent à votre cour. Mais comme nous avons décidé de vivre dans des parcelles de 10 sur 10, ça devient un peu compliqué. Mais si vous décidez de vendre cette parcelle de 10 sur 10, et vous allez acheter celle de 50 sur 50 à lac vert, vous allez vivre tout ce que je suis en train de vous dire. Et si tout le monde se décide d'y aller, vous allez aussi créer la sécurité créée par la masse des gens. Mais cette sécurité qu'on crée en ville, on peut aussi la créer là où on veut. On peut se décider aujourd'hui de créer une cité là où elle n'existe pas. Donc c'est question de décision. Et là encore, il y a une opportunité dans l'immobilier. Dans d'autres villes, c'est une grande opportunité. À Lubumbashi, on m'a appelé, j'étais là, je voulais acheter une parcelle. Et vous savez, on nous a amené où? C'était à l'équivalent de presque Kibumba. Mais on vous montre sur 4 saisons de parcelles. Et les gens achètent parce qu'ils sont convaincus que dans 10 ans, la ville va arriver là-bas et il y aura la paix, il y aura la sécurité. Quand il y a une masse de gens qui s'y concentrent. Alors, deuxième étape, une fois nous avons identifié un besoin, nous devons mobiliser le moyen. Parce que pour acheter des poules, vous avez besoin de quoi? Des moyens. Peut-être que vous allez construire des cages, vous avez besoin de moyens. Mais les jeunes, je suis dire envers vous, moi, je ne comprends pas comment dans une maison de 10 personnes, chacun a un smartphone. Est-ce que nous essayons un peu de penser à ça? Une maison de 10 têtes, chacun a un smartphone. Mais c'est un état qui... C'est pour nous tuer le soir, au lieu de dialoguer chacun un. Vous passez le temps en train de voir les statuts des gens. Et c'est ça le rôle pour lequel vous avez un téléphone. Si c'est le cas, vendez-les et ça sera pour vous l'option de mobiliser le moyen. Épargnez pour ceux qui sont employés, ceux qui ont du travail. Vous pouvez épargner. Et je vous dis, tout le monde peut épargner. Épargnez pour vous constituer un capital. Les dames, vous avez des bijoux de luxe, vendez-les. Vous gardez des bijoux de 500 dollars dans vos valises et vous vous plaignez, je n'ai pas d'emploi. Mais vendez tous ces bijoux. Commencez un poulailler. Commencez une porcherie. Commencez un potager. Commencez un atelier de couture. Et l'école où ma fille étudie, je suis allé poser la question, les tricots là que les enfants portent, vous achetez ça à combien? Et ça vient du monde, ça vient de Kampala. Dis donc, tous les Congolais, nous sommes bêtes. Pour qu'un tricot vienne d'où? Et nous avons des institutions de couture, comment on appelle ça, l'ISAM. Nous avons l'ISAM et nous importons les tricots. Il y a même des écoles qui importent les uniformes. Et je parlais à Papa Mouira, et heureusement il est là. Et ça m'énerve toujours. Pourquoi nous importons les cahiers? Et on nous amène des cahiers, on écrit en anglais, exercise book. Alors que nous sommes dans un pays francophone, c'est cahier d'exercice. Parce que nous n'entreprenons. Mais c'est quoi produire un cahier? Acheter des papiers, les lier ensemble, faire une imprimerie. Et il y a des gens qui construisent des maisons, vous construisez des maisons, au lieu de faire une imprimerie pour produire les. On vous a dit qu'il n'y a pas de machine pour faire les cahiers. Est-ce que c'est destiné seulement aux Ougandais de faire ça? Maintenant, on disait qu'il n'y a pas le courant. Maintenant, il y a le courant. Nous avons même une zone d'aider aux petites industries, là au niveau de Monique. Et je pense qu'il y a un chrétien de la CDK qui va commencer à produire les cahiers. Et vous savez, c'est combien de millions de dollars qui sortent de la RDC à la rentrée scolaire? Et chaque fois que nous sommes au mois d'avril, les commerçants vont à Chine. Allez faire produire quoi? Mais amenez la machine pour faire les cahiers ici. Et vous allez nous faire des cahiers en français avec des images qui illustrent Goma. un cahier avec les tchoukoudous. Un cahier avec quoi? Les mongoma. Un cahier avec les lacs verts. Un cahier avec les volcans. Voilà ce que nous devons faire. Et je pense que c'est l'information qui nous manque, mais maintenant nous sommes informés. Alors, je parle du capital. Le capital, nous l'avons. Nous vivons tellement de luxe. Si tout le monde ici vend ce qu'il a, nous pouvons faire du capital. Et commencer peut-être la première librairie. Je sais que j'ai discuté avec la CBK par rapport à un projet qui peut générer de l'argent. Et moi, j'ai dit ça, voici les projets qu'il faut faire. Faites une industrie qui produit les cahiers. Et la CBK ne va plus faire des projets pour envoyer en Europe. Et là, je parle de l'Église comme communauté. Et ce sont des choses possibles, mais il faut la décision pour y arriver. Démarrer avec le moyen de bord. Il est recommandé de démarrer avec le moyen de bord. Si possible, éviter l'endettement qui vous rend dépendant et vous empêche de payer la dîme. Moi, je suis passé par cette expérience. J'ai commencé une affaire avec de l'argent. J'ai collecté de l'argent auprès des gens. Mais des fois, ça tournait mal. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, les gens ne vous comprennent pas. Des fois, les personnes qui vous ont prêté, quand ça ne marche pas, ces personnes commencent à vous calomnier. Alors, ce que je recommande, c'est de démarrer avec le moyen de bord. Et le moyen de bord que vous avez, si vous êtes jeune, c'est votre téléphone. Les mamans, vos bijoux là que vous gardez, sous les matelas. Les papas, vous connaissez aussi les costumes qui coûtent cher. En fait, quand on n'a pas assez de moyens, soit tenu de chaque jour, devait être quoi? Les tabliers et les salopettes. La veste est une tenue lorsque la poche est un peu suffisamment provisionnée. Alors, consacrer du temps au développement de votre agère, mettre en place un bon cadre organisationnel et de gestion. Beaucoup de gens ont commencé des activités mais qui ont échoué. Pourquoi? J'ai une institution qui vaut entrepreneur. Nous faisons aussi le diagnostic des projets qui ne marchaient pas. Et nous avons réalisé, nous sommes en train de documenter ça. Je suis en train même d'écrire un livre sur ça. C'est le manque de cadre organisationnel et manque des outils de gestion, manque de la rigueur dans le management. Et la plupart des gens, on a ce qu'il y a, quoi qu'un grand commerçant à chaque home. Soit il avait pris une mauvaise décision, il a pris un crédit, n'a pas bien analysé la capacité de les rembourser, soit il avait hypothéqué tout son avoir. Déjà pour prendre un crédit, il faut être informé. Vous avez la seule maison que vous avez acquise jusqu'à 60 ans et vous l'hypothéquez dans un crédit. Donc vous avez travaillé pendant tout ce temps et vous avez la seule maison, vous allez faire quoi? La mettre en hypothèque. Puis vous allez commander des choses en Chine, il y a accident, ça perd, et beaucoup de gens ont des problèmes comme ça. Et aussi, beaucoup de gens ne veulent pas se faire former. Je bénis Dieu parce que la CBK nous donne ce temps de parler de ces choses, mais ce n'est pas suffisant. Au-delà de ça, nous avons besoin de nous faire former, et il y a des cadres indiqués pour ça. Alors, nous allons vers la fin. Nous devons garder la foi et faire la différence dans la course pour le bien-être. Là, nous sommes dans Matthieu 6, 33, qui nous invite à prioriser quoi? La recherche de la sagesse divine. Parce que nous allons voir que dans la vie pratique, dans la recherche de ce bien-être, les gens sont prêts à tout faire. Les gens sont prêts à piétiner les valeurs chrétiennes pour gagner de l'argent. Mais Dieu est en train de nous dire qu'il est possible de gagner de l'argent dans la crainte de Dieu, même dans des activités négligées. J'espère que Dieu va nous aider à y parvenir. Nous devons choisir un environnement et une direction propice pour garder la connexion avec Dieu. Avant dernier point, nous sommes appelés à être des bons gestionnaires partant de la gestion du temps. Je vais vous poser la question. Les gens là qu'on appelle milliardaires, les gens là, les Jack Ma, Steve Jobs qui était mort avant, aujourd'hui on parle de Elon Musk, Bill Gates, ces gens-là, et moi, ils ont combien d'heures par jour? Ils ont combien d'heures par jour? Ils ont 24 heures! Ce qu'il y a de commun, c'est 24 heures. Mais vous savez, ces gens ont appris comment gérer efficacement le 24 heures. Et je suis en train vraiment de cultiver ça, comment gérer efficacement les 24 heures. Parce que nous tous, nous avons 24 heures. Mais il y a des uns qui gèrent bien, d'autres qui gèrent mal. Et commencez à vous interroger, comment je gère mes 24 heures. Même si vous êtes employé, vous avez toujours un excédent des heures que vous pouvez consacrer pour une activité. Même si vous êtes pasteur, vous avez toujours un excédent des heures que vous pouvez utiliser pour commencer une activité. Alors, gérons bien notre temps et gérons bien les ressources que Dieu a mis à notre possession. Sachant lire les moments d'abondance dans notre vie et capitaliser cela pour des moments de crise. Il arrive que nous passons par une période de floraison. Alors, sachant bien gérer cela en épargnant. Et là, je vais parler de l'épargne. Nous avons parlé de plusieurs types d'épargne pendant la semaine. Nous avons parlé de l'épargne des précautions. Des précautions, l'argent que vous avez en poche, que vous pouvez utiliser si vous avez un besoin quelconque. L'épargne de sécurité, c'est de l'argent qui n'est pas dans votre poche, mais qui est quelque part, dans une banque. Nous avons parlé de l'épargne pour l'investissement. Nous avons parlé même de l'épargne pour la retraite. Et que chacun devait faire un effort de travail sur les quatre types d'épargne. Mais souvent, il y a ceux qui sont dans les négatifs. Alors que nous devons être avec ces quatre types d'épargne alimentés. Enfin, soyons des bénédictions pour notre famille, notre entourage et l'œuvre de Dieu à travers les offrandes, la dîme et les services. Bien-aimés dans le Seigneur, en pratiquant ceci, Dieu va vous bénir. Mais quand Dieu va vous bénir beaucoup, vous aurez aussi beaucoup qui vont vous tendre le main. Alors, ne repoussons pas ces mains-là. Plus Dieu vous bénit, sachez que plus vous aurez des sollicitations. Et quand Dieu nous bénit, ce n'est pas en fait pour nous. Dieu nous bénit pour que nous soyons un canal par lequel il va bénir d'autres. Vous achetez un véhicule dans votre quartier, vous êtes le seul, sachez que tous les voisins vous réveilleront la nuit quand il y aura un malade. Ne vous en plaignez pas. Dieu vous a béni pour être leur source de bénédiction. Vous avez des indicateurs que vous avez de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui viendront autour de vous. Je me sens toujours mal lorsque je vois ces pauvres-là approcher nos voitures quand on est dans les embouteillages et les gens ferment entièrement. Ça, c'est un péché. Même si vous n'avez pas parlé, lui quand même, dites-lui, je n'en ai pas, demain je vais te donner. Et que cette personne sente que celui-ci a été béni, moi aussi, il m'est béni. Vous savez, des fois je me mets dans ces conditions, je dis, pourquoi cette personne est dans ces conditions et moi, Dieu me met dans la voiture. Mais comment nous réagissons quand ces gens nous tendent la main? Que Dieu nous aide. Moi, ma fille, elle a 7 ans et elle a déjà développé une sensibilité. Il arrive qu'elle nous arrête. Elle dit, papa, il y a quelqu'un là qui est en train de demander, il faut qu'on lui donne. Parce que peut-être il n'a pas à manger. Nous devons même développer ça et transmettre ça à nos enfants. Cette culture de venir en aide à son voisin. Aujourd'hui, vous savez, l'humanité produit autant de ressources que les humains en ont besoin. Mais nous souffrons de quoi? Du problème de répartition. Il y a la répartition inéquitable. Ce qui fait qu'il y a des riches et des pauvres. Mais si on pratiquait une distribution, on mettait tout dans un panier que tout le monde prend, il y aurait de la nourriture à manger pour tout le monde. Alors que Dieu nous aide d'être un bon modèle, que quand nous serons bénis, que nous puissions aussi bénir non seulement notre famille, mais ceux qui nous entourent, payer correctement notre dîme, payer nos offrandes comme il le faut et être une source de bénédiction. Que Dieu nous aide à mettre en pratique cette parole pour notre bien-être, celui des personnes placées autour de nous et cela pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen.